Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et avec deux petites minutes de retard, pardon, voici notre invité de la matinale, Marion Gorgiard. Elle est membre de la France Insoumise, elle est avec nous en direct, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon.
Alors on va essayer d'être sérieux, hein, c'est pas toujours simple après la chronique de Christophe Hamon, pour parler de politique avec un moment politique un peu particulier. Demain il y a une marche organisée contre l'antisémitisme à Paris et les filles a fait le choix de ne pas y participer pour ne pas être aux côtés du Rassemblement National. Est-ce que, de votre point de vue de militante, c'est une bonne décision ?
Oui, tout à fait, oui, je l'approuve. Je pense qu'il y a deux raisons à cette non-présence à ce rassemblement. Bon, d'abord parce que, évidemment, il est hors de question de défiler aux côtés du Rassemblement National, même en pratiquant le fameux cordon, je ne sais pas si on peut l'appeler sanitaire, mais le cordon dont il est question par les autres formations politiques pour se démarquer. Mais c'est aussi, surtout parce qu'il s'agit d'un appel, notamment de Yaël Braun-Pivet et de Monsieur Larcher, concernant uniquement un rassemblement contre l'antisémitisme. À l'heure actuelle, je pense que l'appel à un rassemblement contre l'antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes aurait été plus approprié. Et on ne comprend pas pourquoi il y a ce terme manquant. Oui, il y a une montée. Bon, on en parle beaucoup plus en ce moment. Évidemment, est-ce qu'elle est si importante que ça ? Je n'en sais rien. Mais elle est là. Bon, c'est indéniable. On a une importation du conflit israélo-palestinien désormais dans toute l'Europe et enfin même dans le monde entier, on peut le dire. Ce n'est pas en clivant, contrairement à ce qu'on nous reproche d'habitude, mais ce n'est pas en clivant et en se portant pour telle ou telle formation qui rentre dans ce conflit qu'on va résoudre les choses, et surtout pas en France. Il y a indéniablement vraiment une montée très conflictuelle, très clivante dans les propos, sur les réseaux, même à l'Assemblée parlementaire. Et Monsieur Macron n'a rien fait pour l'arranger. Il n'est pas possible, là, actuellement, de ne pas parler des massacres qui se déroulent à Gaza et maintenant qui se sont étendus à la Cisjordanie. On ne peut pas ne pas appeler au cessez-le-feu. Il vient juste du bout des lèvres de prononcer le mot hier. C'est heureux. C'est heureux, mais que de temps perdu, que de morts. Donc, pour revenir à cette manifestation, à ce rassemblement proposé, aux côtés de l'extrême droite, c'est évidemment hors de question. Il y a un mélange des genres total qui est fait. On participe actuellement, enfin c'est le cas dans nos institutions, mais on participe en acceptant que le Rassemblement National soit à ce rassemblement à une dédiabolisation totale. Rappelons quand même que ce parti politique ex-FN, petit groupuscule, a quand même à son origine le nazisme. Pur et dur, au sein du Rassemblement National, autour du Rassemblement National, gravitent toujours des groupuscules qui n'ont rien à envier au nazisme le plus dur de la dernière guerre. Et maintenant, se réclamer de l'antisémitisme, c'est juste accepter une confusion des genres, là.
Le Rassemblement National, pour vous, n'a pas changé depuis sa fondation du temps du Front National. Alors, on parle de dédiabolisation, on parle d'une nouvelle génération d'un Jean-Marie Le Pen qui est sur la touche, finalement. De votre point de vue, c'est pas le cas.
Non, pas du tout. Non. On a un discours. On a un discours largement porté par les médias mainstream et les membres du gouvernement et la Macronie qui, en fait, maintenant, a fini quasiment de capter à la droite et à l'extrême droite une partie, notamment des parlementaires, puisque les choses se passent, les décisions concernant notre pays se passent en partie à l'Assemblée. Mais même malgré ça, comme ils ne sont pas sûrs d'obtenir la majorité, on se retrouve avec cette série 49-3, on y reviendra peut-être.
On va en parler.
En attendant, le Rassemblement National est pour le moment un parti qui, dans le fond, et dans les convictions à une idéologie absolument raciste et fasciste. Et ce parti politique, en fait, n'a juste que la cravate supplémentaire à présenter. Voilà, il ne vote en aucun cas des résolutions sociales. En aucun cas, c'est fait pour les gens, c'est fait pour le féminisme, c'est fait pour la solidarité. Ce parti politique ne défend en fait que des idées d'extrême droite, mais sous couvert propre, avec costume cravate.
Alors justement, du côté du Rassemblement National, on entend un discours inverse, vous l'imaginez bien. Oui. En disant que l'extrême gauche, alors la NUPES et les FI, les forces de gauche, favorisent l'antisémitisme. Alors on parle d'islamo-gauchisme, je vais y arriver. Là aussi, ça vous met en colère.
Mais c'est juste que ce n'est jamais réajusté sur les plateaux télé qui met en colère. En revanche, qu'on ait ce discours de la part de l'extrême droite et même de la droite, le terme islamo-gauchiste est une invention pure qui ne repose absolument sur rien. Je défie quiconque de pouvoir nous le dérouler, d'en faire une définition exacte. J'ai entendu parler de communautarisme, enfin bon, voilà. Nous avons toujours fermement condamné l'antisémitisme, le racisme, tout ce qui pouvait monter les gens les uns contre les autres en règle générale, que ce soit pour des raisons sociales, religieuses, d'origine. Je pense que, en fait, on nous demande sans arrêt d'avoir à nous justifier par rapport à un mot manquant dans une déclaration, par rapport à, je ne sais pas, moi, à la limite, je n'en sais même rien, parce que c'est souvent de la pure invention.
Alors, on a beaucoup pointé les propos de Jean-Luc Mélenchon ces temps derniers, alors dans les médias, un petit peu partout, là encore, il y a eu beaucoup de choses de dites, y compris sur les réseaux sociaux. On lui a reproché de ne pas avoir, et plus largement d'ailleurs, à la France insoumise, de ne pas avoir qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Est-ce que vous vous dites qu'il y a une erreur, on aurait peut-être dû le faire, ou est-ce que ça n'avait pas lieu d'être, on n'avait pas, enfin, en tout cas, et les FI ou les forces de gauche plus largement n'avaient pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste?
Alors, la condamnation des actes du Hamas, soyons très clairs, nous l'avons fait 100 fois, 1000 fois. S'il faut le répéter ici, je répète, nous avons et nous condamnons très fermement les massacres commis par le Hamas le 7 octobre. Ceci étant dit, le terme terroriste n'a absolument aucune valeur juridique dans le droit international. On peut, et c'est le cas toujours, des dictatures peuvent traiter de terroristes leurs opposants. Donc en fait, ce terme est utilisé par qui veut l'utiliser pour condamner quelqu'un d'autre. En revanche, l'horreur commise relève effectivement d'actes qui peuvent, on peut les qualifier, ces actes de terroristes si on veut, mais c'est une guerre. Appelons les choses par leur nom, c'est une guerre. Donc par rapport à une Palestine occupée depuis 70 ans, quelles sont les raisons de l'attaque du Hamas? C'est clairement la branche armée du Hamas qui a commis ces actes, ces massacres. Je pense qu'il faut aussi, au bout d'un moment, regarder le temps qui s'est écoulé depuis un mois et voir que, oui, nous avions raison. Oui, la communauté internationale qui s'inquiète de ce que devient l'humanité et de ce que deviennent les victimes palestiniennes à Gaza et maintenant en Cisjordanie, condamne avec la plus grande force et appelle au cessez-le-feu et à la libération des otages. Nous n'avons pas dérogé depuis ce moment-là. Par rapport à la parole de Jean-Luc Mélenchon, Je pense sincèrement que si on regardait dans le temps, si on prenait le recul nécessaire pour en fait se rendre compte qu'il avait raison, le terme terroriste, encore une fois, c'est pas que je veux le mettre de côté, mais est-ce que c'était ça l'important? C'était pas le terme terroriste, c'était par exemple crime contre l'humanité, puisque ce terme est reconnu par les instances internationales. Pour éclairer un peu plus les auditeurs, il faut savoir que là, depuis 3 jours, je crois, a été déposé devant la Cour pénale internationale la condamnation d'Israël pour génocide. Le terme n'est quand même pas anodin. Mmh. Quand on parle de génocide, ça fait toujours pour nous référence à des moments sombres comme la dernière guerre. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte de la gravité des choses. Donc les victimes israéliennes du 7 octobre, nous ne pouvons hélas plus à l'heure actuelle faire grand-chose pour elles. En revanche, les victimes de Gaza et de Cisjordanie, qui maintenant, ce sont les chiffres du Hamas, mais je pense qu'on n'est pas loin, sincèrement, de 5 000 morts il y a 2 jours et qui s'est encore augmenté cruellement hier, dont un tiers d'enfants. L'attaque, le bombardement d'institutions internationales sur le territoire de Gaza, l'attaque des hôpitaux, l'attaque de leurs moyens de travail, hein, que ce soit leur énergie, l'eau, l'arrivée des carburants. Tout cela fait que nous avons maintenant affaire clairement à une condamnation pour génocide d'Israël.
Le problème dans la bande de Gaza, c'est d'arriver à frapper le Hamas, finalement, les terroristes ou l'organisation terroriste, ou en tout cas les combattants du Hamas, dans Gaza, et ces combattants se cachent derrière les populations civiles. C'est une situation inextricable, finalement.
Mais en fait, à partir du moment où on ne sait pas, parce qu'à l'heure actuelle, nous ne le savons toujours pas, on interdit les observateurs, enfin en tout cas par la difficulté d'y accéder, les observateurs internationaux n'arrivent même pas à savoir sur place l'ampleur des victimes et l'ampleur des bombardements au fur et à mesure et de savoir s'il y a effectivement des membres du Hamas armés qui se cachent parmi la population. Sincèrement, il peut y avoir des doutes. Ça, moi, je ne suis pas assez pointue pour pouvoir en parler ici. Mais il peut y avoir des doutes étant donné que de toute façon quasiment tout est bombardé et que la riposte du Hamas a toujours cours. Donc on ne sait pas exactement où sont mis les otages. Nous réclamons leur libération, mais ce n'est sûrement pas en amplifiant ou en laissant amplifier ce conflit qu'on va permettre aux familles israéliennes de retrouver leurs proches. Donc je pense qu'il faut arrêter là, remettre tout le monde autour de la table et que c'est clairement à l'ONU de reprendre la main et que surtout les États fassent en sorte d'apaiser au lieu de conflictualiser davantage cette guerre.
Guerre qui a des répercussions ici en France. On a vu, on le disait en commençant, Marion Gorgiard, ces actes antisémites, ces agressions, ces étoiles de David qui ont été taguées sur des murs, ces croix gammées de sinistre mémoire qui reviennent sur les murs. Tout ça amplifie un contexte politique difficile et on a dans ce contexte politique difficile, hasard de calendrier, vous me direz, l'examen de la loi immigration. Est-ce que pour vous, il fallait le repousser cet examen dans ce contexte-là ou au contraire, il faut en faire, j'allais presque dire, un emblème politique?
La loi immigration, mais ni maintenant ni après. Là, ce qui est en train de se passer, avec même le Sénat qui vient de supprimer, je mets ça à côté, mais quand même, en cavalier électoral, le Sénat qui vient de supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, pour la transformer, on ne sait pas encore, en aide médicale d'urgence.
Elle serait plus restrictive, censément, le texte.
Beaucoup plus restrictive, et c'est simplement un désastre sanitaire. Le corps médical s'insurge, y compris des membres de Renaissance, d'ailleurs, pour dire que là, on aura affaire à quelque chose qui met tout simplement toute la population en danger, parce qu'à partir du moment où on ne soigne pas, il n'y a pas d'urgence, d'urgence en termes médicaux. Soit on prend le mal à la racine, on soigne les gens, et je ne sais pas, par exemple, un virus s'arrête là, soit on ne le fait pas et on le laisse proliférer. Et donc, je vais les appeler les jaloux, qui disent oui, c'est très bien ceux qui viennent en France pour se faire soigner à nos dépens. Hein. Cette AME représentait donc 0,5% de notre budget santé. On ne peut pas, sous prétexte de ne pas vouloir soigner des gens parce qu'ils viennent de l'extérieur et qu'ils ne sont encore en situation illégale au regard de notre loi, mais toujours en situation d'urgence tout de même, arrêter de les soigner et les laisser crever dans leur coin en pensant que ça va juste nous faire récupérer quelques millions d'euros. C'est une aberration. C'est une aberration sanitaire. Pour revenir sur la loi immigration, sincèrement, à partir du moment où on s'en prend à des populations qui arrivent, on le sait, on l'a vu de triste mémoire, donc ces naufrages en mer Méditerranée, on ne peut pas, nous, en tant que pays des droits de l'homme, se positionner comme si le danger de notre pays venait de l'immigration. Non, ce n'est pas le cas. L'immigration.
Il y a une peur de l'immigré, permettez-moi le terme, il est peut-être un peu fort, mais de l'immigré aujourd'hui, de celui qui n'est pas pareil.
Oui, elle est savamment entretenue et elle ne repose sur pas grand-chose. Quand on parle, je ne sais pas, des attentats, pour reprendre les arguments principaux de l'extrême droite, ils ne sont pas commis forcément tous par des étrangers, même s'il y en a. Mais c'est simplement parce que aussi nous avons compris, après chacun d'entre eux, ou des assassinats, que nos services de renseignement ne fonctionnent quand même pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire. À chaque fois, on se rend compte qu'ils ont, ils avaient des fiches sur telle et telle personne, et malgré tout, l'attentat a eu lieu.
On entend beaucoup parler de fichiers S qui passent à travers la raquette.
Partout, il y a des personnes dangereuses. Je pense que, y compris avec cette montée de la peur, un climat social, mais qui est vraiment désastreux, la paupérisation d'une grande partie de la population, on a droit effectivement à maintenant non seulement des paroles, mais des actes des problèmes aussi énormément psychologiques d'une partie de la population, qu'elle vienne de l'extérieur ou pas, qui amène à des actes. On voit des personnes décimer leur famille. C'est remettre les choses à leur place. Les réfugiés sont des réfugiés essentiellement, soit climatiques, soit parce qu'il y a un conflit dans leur pays. Ils n'ont pas, absolument pas, le désir de traverser la Méditerranée uniquement pour venir se faire soigner chez nous. Ça ne repose sur rien, c'est même d'un ridicule abyssal. Donc à partir du moment où on s'en prend à l'étranger et que ça sert juste à masquer nos propres turpitudes, qui sont celles d'un gouvernement en fait qui impose à toute la population française des restrictions à tous les niveaux, que ce soit sur les revenus, les conditions de travail, la santé, on pourra en parler, et de dire que ça viendrait des exilés chez nous, mais c'est regarder autour de vous. On n'a pas besoin d'eux pour comprendre que les décisions prises sont celles-là qu'il faut attaquer.
On entend Gérald Darmanin qui qualifie certains réfugiés d'immigration finalement pour venir chercher des aides ici en France, cette fameuse immigration économique. Est-ce que pour vous c'est une réalité ou c'est vraiment un phénomène, un petit phénomène ?
Alors je vais demander à tout le monde de se mettre en situation d'avoir son territoire en guerre ou d'avoir des méga inondations ou des températures qui dépassent les 50 degrés ou d'avoir des problèmes de recherche de moyens d'existence et de se dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. on reste et on attend que le ciel nous tombe dessus, ou on cherche à préserver sa famille et on est dans la survie, évidemment. Donc, à partir du moment où des personnes cherchent à se sauver, encore une fois, à rester en vie, tout simplement, Ben oui, y a des lois effectivement qui encadrent comment l'immigration. Mmh. Oui, c'est on rentre en France, le parcours de l'intégration, enfin pas de l'intégration, mais le parcours de la carte de séjour est maintenant un parcours du combattant. Donc rien n'est fait pour les appeler à venir chez nous, absolument rien. Pourtant ils viennent quand même, au risque de leur vie, en traversant encore une fois la Méditerranée.
La France marque une espérance finalement pour ces populations qui viennent d'autres continents, la France ou peut-être même plus largement l'Europe.
Mais maintenant, ça ne va plus être l'espérance de rien du tout. Ce qui les attend, là, c'est... Franchement, quand on voit à quel point ils sont maltraités, là, vous avez des familles entières qui sont dans un parc à Rennes et qui ne trouvent toujours pas... Enfin, si, ils ont été, pendant la tempête, hébergés momentanément par la municipalité dans un gymnase... Mais on a des enfants qui dorment dehors depuis des mois avec leur famille. Donc non, ce n'est pas souhaitable. Et pourtant, nous avons ce devoir d'accueil. Nous l'avons vraiment, nous l'avons toujours eu. Nous avons ce devoir de solidarité et d'accueil des gens en détresse. Donc qu'ils viennent de l'étranger, on a su le faire avec les populations exilées ukrainiennes. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids deux mesures avec les populations venues de pays en guerre.
Alors, il y a aussi, vous le soulignez fort justement, Marion Gorgiard, cette crise économique que l'on a dans nos pays européens, aujourd'hui en France, des difficultés à vivre, à se loger. Parfois, on évoque souvent les étudiants ici ou les précaires, ceux qu'on appelle les précaires. Est-ce que justement cet afflux de réfugiés, ça crée aussi un problème dans nos sociétés en disant oui, mais eux, ils peuvent avoir des logements et nous, on n'en a pas. On entend souvent cela aujourd'hui.
Ce que je viens de dire, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Ça ne repose encore une fois sur rien du tout. On a une population immigrés, mais pas depuis trois générations, même récentes, qui participent à l'économie de notre pays, qui payent des impôts, qui n'a pour autant toujours pas le droit de voter, mais qui participent à notre économie. Là, on a parlé récemment des métiers en tension, mais de quoi parle-t-on ? Il faut regarder que ce sont des emplois qui sont à la tâche, précaires, hyper mal payés, dans des conditions de travail des fois déplorables. Et là, pour les assumer, étant donné qu'on a des entreprises qui ont de plus en plus peut-être de difficultés à trouver donc des salariés pour ces postes, se disent oui, les immigrés, tiens, allez, ceux-là, ils vont prendre n'importe quoi parce que de toute façon, ils ont rien. Ce qui prouve bien qu'ils ne vivent pas si bien que ça, puisque on est prêt à leur donner n'importe quel travail. En tout cas, on leur demande d'assumer ces travaux dont personne ne veut. Regardons autour de nous qui sont les employés municipaux de nettoyage dans les rues, notamment à Paris, qui sont les personnels qui s'occupent de nos personnes âgées dans les EHPAD. Regardons qui travaille dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, sur la voirie, et on a tout compris. Donc les conditions de travail, elles sont à revoir pour tout le monde. Voilà, que ce soit très clair, parce qu'elles sont souvent très très dures. Simplement, comme on a plus de mal à trouver maintenant des personnels pour pouvoir remplir ces postes, eh bien on durcit l'allocation chômage, d'un côté, pour obliger les gens à revenir en emploi, comme on dit maintenant, et à dire, oui, on a peut-être besoin d'immigrer pour assurer ces métiers en tension qui ne trouvent pas de salariés. On regarde ça d'un petit peu plus haut, et on se pose vraiment la question, de quoi parle-t-on ? On parle du travail.
Alors on va en parler pour conclure du travail. Il nous reste allez, deux petites minutes. Hein, je regarde notre réalisateur. Il est intransigeant sur le temps. Marion Gorgère, est-ce que la société doit changer aujourd'hui d'un point de vue alors économique, on a compris qu'il y avait une grande mutation en cours, mais du point de vue social, et ça rejoint un petit peu toute la conversation qu'on vient d'avoir, est-ce qu'elle doit évoluer cette société? Est-ce que justement les politiques, hein, je vais mettre les politiques dans le sens générique au plus large sens du terme, doivent y pourvoir, doivent faire avancer les idées d'une société plus juste?
Ah mais complètement, et je pense que nous, à la France Insoumise, on a contribué à faire évoluer certains débats. On va avoir, au niveau parlementaire, nous avons donc notre niche parlementaire le 30 novembre, avec des propositions, en tout cas sur ce sujet du social. Là, ça va être notamment l'indexation des salaires sur l'inflation, puisque bon, on se rend compte que maintenant, les Français ont perdu une bonne part de pouvoir d'achat. Mmh. Le blocage des prix de première nécessité, c'était ce que nous avions proposé la dernière fois. Mais là, maintenant, avec également le blocage des revenus pour les agriculteurs. Et concernant également toute la partie du logement, notamment pour les étudiants. Et leur revenu, faire en sorte que maintenant les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions. Voilà, nous avons une dizaine de propositions de loi à aborder ce jour-là, en espérant que le gouvernement nous laisse les dérouler jusqu'au bout.
Et vous aurez déroulé vos opinions et votre discours, oserais-je dire, jusqu'au bout. Marion Gorgière, membre de la France Insoumise, vous étiez notre invitée ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct.
Je vous remercie, bonne journée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.